Radio Courtoisie,
indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Et nous retrouvons aujourd'hui Philippe Perlin, économiste spécialiste des questions monétaires, chroniqueur et docteur en économie. Vous êtes l'auteur, Philippe Perlin, de La France, France la faillite, de Pouvoir d'achat, le grand mensonge, de Bitcoin, comprendre et investir, le tout aux éditions Erol. Aujourd'hui, nous allons parler des prix des carburants. Philippe Perlin, quelle est la spécificité de la fiscalité sur les carburants?
Oui, parce que bonjour, merci pour votre invitation. Alors, j'entends beaucoup de choses sur la fiscalité du carburant qui sont fausses, en fait, parce qu'on ne comprend pas la nature des taxes qui pèsent sur l'essence. Vous savez que la France fait preuve d'un génie inventif dans le domaine des taxes. Et pour les carburants, il y a une taxe qui s'appelle l'ACISE, A-2-C-I-S-E, et c'est une taxe qui dépend de la quantité et non pas du prix. Et ça change complètement la façon de percevoir comment ça marche. C'est-à-dire que l'assise, elle est de 80 centimes par litre, point la ligne, quel que soit le prix du baril de pétrole. Et en plus, se rajoute la TVA de 20% sur le prix. Mais l'essentiel de la fiscalité, c'est cette assise. Et donc, 80 centimes par litre, quel que soit le prix, ça veut dire, si on prend un exemple, un cas d'école, si le pétrole devient gratuit, si le baril de pétrole tombe à 0 dollar, eh bien, on continuera de payer l'essence, 80 centimes du litre. Voilà. Alors que la TVA, elle tombera à zéro, évidemment. Mais ce n'est pas complètement proportionnel. Donc, ça change complètement la façon de percevoir les choses. Alors, quel est l'avantage pour ça? Pourquoi est-ce qu'on a fait assise plus TVA? En fait, c'est surtout pour avoir une grande stabilité des recettes fiscales de l'État. Parce que quel que soit le cours du baril de pétrole, qu'il soit à 60 dollars ou qu'il soit à 100 dollars comme aujourd'hui, il est toujours sûr d'avoir 80 centimes par litre. Et ça lui permet de mieux prévoir ses recettes fiscales et d'avoir un niveau de recettes fiscales important. Et la TVA, elle joue, mais comme c'est 20% du prix, en fait, c'est tout à fait secondaire. Ces 20%, ça représente à peu près 20 centimes quoi, pour le prix. Et si on prend l'exemple d'un baril de pétrole qui passe de 60 à 100 dollars, c'est-à-dire une augmentation de 65%, eh bien, le prix à la pompe, il augmente de 20% seulement, parce que justement, l'assise, ça joue, comme elle est stable, elle ne va pas augmenter avec le prix. Donc, le prix à la pompe va augmenter de 20%, et les taxes vont augmenter de 6% seulement, parce que l'assise, elle, n'augmente pas, il n'y a que la TVA qui augmente. Et donc, je suis obligé de dire que le gouvernement a un peu raison. Alors, ça ne m'arrive pas souvent de défendre le gouvernement en place, mais là, il a un peu raison en disant que le gouvernement ne profite pas de la hausse du prix du baril. Il ne fait pas rentrer, il ne fait pas tomber des milliards à des milliards. Si cette hausse du prix du baril reste à 100 dollars pour toute l'année, ça lui fera 2 milliards de plus seulement, en fait. Et donc, il n'y a pas d'explosion, mais ça ne veut pas dire que l'État ne profite pas uniquement de la hausse. Moi, ce que je dis et ce qu'on comprend quand on voit cette fiscalité, c'est qu'en fait, l'État se gave tout le temps, pas seulement quand le baril est élevé. Même quand le baril est bon marché, quand il est à 60 dollars, 50 dollars, c'est arrivé, eh bien, lui, le gouvernement, lui, il touche, Bercy récupère 80 centimes par litre, comme j'ai expliqué, et ça lui garantit des ressources fiscales très importantes. Au final, on sait, la moitié du prix de ce qu'on met en carburant va en taxes. Et ça, c'est là où on voit que ça pèse très lourd sur les consommateurs, sur toutes les sociétés de transport ou les chalutiers qui utilisent l'essence. D'ailleurs, j'ai vu qu'un chalutier disait que le coût du carburant représente 40% de son prix de revient. C'est ça qui pose un vrai problème, c'est-à-dire que le volume des taxes sur le carburant est tellement élevé qu'il introduit une distorsion et qu'il condamne un certain nombre d'activités, que ce soit les routiers ou les chalutiers, arrêter de travailler quand le coût du carburant est trop élevé, quoi. Et donc c'est pour ça que moi, les discours que j'entends où les gens disent qu'il faudrait baisser la TVA sur l'essence pour redonner le pouvoir d'achat aux gens, c'est une erreur. l'impact serait de toute façon marginal. Ce qu'il faut faire, c'est baisser l'assise. L'assise est trop élevée, 80 centimes par litre, c'est trop élevé, parce que l'assise plus la TVA, comme je viens de le dire, ça représente en gros la moitié, plus de la moitié du prix du carburant. Donc, mais c'est sur l'assise qu'il faut jouer, et à ce moment-là, ça redonnera du pouvoir d'achat aux Français toute l'année, pas seulement quand il y a une explosion du prix du baril. Ça, c'est des choses sur lesquelles nous, bah, on ne peut pas intervenir, hein, donc on le subit, point à la ligne, on ne peut pas intervenir, mais on peut jouer sur la fiscalité, et on peut faire en sorte que même quand le pétrole est relativement bon marché à 50-60 dollars le baril, bah, les Français aussi puissent avoir un peu plus de pouvoir d'achat à ce moment-là, et pas seulement quand il y a une explosion des prix comme en ce moment.
Et justement, pour le moment, les prix du carburant sont supérieurs à 2 euros du litre, atteignent même 3 euros du litre dans certaines zones de France. Qui profite ?
Ah bah, essentiellement, ceux qui vendent du pétrole. Les pays exportateurs de pétrole, eux, ils encaissent beaucoup. Après, on a une chaîne de distribution, que ce soit le raffinage ou la distribution, où les marges sont extrêmement faibles. Donc, ils ne s'en mettent pas vraiment dans les poches. On sait que les supermarchés, ils mettent des stations essence pour faire venir des clients, mais pour eux, ça leur apporte quasiment rien. Je crois qu'ils font un centime de marge. Enfin, c'est vraiment symbolique. Donc, c'est essentiellement, voilà. Et puis, l'État qui gagne un peu, mais c'est sur la TVA, comme je disais tout à l'heure, c'est 20% des prix, ça se compte en quelques milliards et c'est tout, quoi. Donc, c'est vraiment les pays exportateurs qui en ce moment, engrangent de l'argent, quoi. Voilà.
Mais pourtant, certaines chaînes de distribution, je pense notamment à Leclerc, vendent désormais, comme ça a pu arriver par le passé, le pétrole, enfin, l'essence à prix coûtant, ce qui crée quand même une réelle différence dans le fond.
Alors ensuite, ce qui peut jouer, c'est la plus ou moins de concurrence. Par exemple, les stations essence à Paris, intramuros ou proches, elles sont plus chères que dans d'autres régions. Les supermarchés, eux, ils ont intérêt justement à tirer les prix et être quelques centimes en dessous pour inciter les gens à venir en fait acheter, faire leurs courses chez eux. C'est ça l'objectif, quoi. Voilà. Donc il y a des différences. Il y a aussi des questions de concurrence. Bon, il y a des zones où la concurrence est faible, donc le vendeur de carburant peut avoir tendance à augmenter un peu ses prix. Surtout que les prix sont très volatiles en ce moment. On était un peu en dessous de 100 dollars il y a une semaine, on est au-dessus maintenant, on sera peut-être à 130 ou 150 dollars dans une semaine. Bon, donc alors, on peut comprendre le comportement de certains vendeurs de carburant de dire « je vais plutôt mettre un prix un peu élevé pour me couvrir contre cette volatilité, contre cette hausse voilà. ».
On pense aussi, c'est quelque chose qui revient souvent dans la question de… comment réussir à baisser les prix du carburant en période de crise, à la question du chèque énergie, du chèque essence, comment vous voyez cette mesure ?
Ben ça, le problème de ça, c'est que ça coûte cher à l'État. Alors, le gouvernement, au départ, avait dit un petit plan de 70 millions, ce qui nous semble ridicule pour quelques professions. Et puis, devant le tollé, devant la grogne, il a décidé de remettre un chèque énergie, alors que soi-disant, on ne devait plus faire ce genre de politique parce que les caisses sont vides, effectivement, elles sont vides. Bon, mais ça coûte de l'argent. Mais moi, je répète, la solution, c'est de baisser l'assise. Alors, si on baisse l'assise, on baisse de façon pérenne les recettes fiscales de l'État en ce qui concerne le carburant. Et ça va lui poser un problème. Mais il faut quand même prendre le problème de l'autre côté, c'est-à-dire il faut diminuer la dépense de l'État. Voilà, il faut diminuer les dépenses publiques qui sont à un niveau trop élevé, parce que sinon, on ne s'en sortira jamais, quoi. Là, l'État ne veut pas le faire, donc il garde l'assise, il garde la TVA, et puis il fait un petit chèque pour amuser la galerie et faire penser qu'il s'occupe du pouvoir d'achat des Français, quoi.
Il nous reste 3 minutes, Philippe Herlin. Autre question, comment ça se passe pour les autres énergies ? Je pense notamment au gaz et à l'électricité. Quelles sont les fiscalités qui pèsent sur ces deux énergies ?
Alors, le gaz est aussi impacté par la crise qui a lieu au Moyen-Orient, en Iran, et on paye beaucoup plus cher, surtout qu'on a décidé de se priver du gaz russe, et donc on importe beaucoup de gaz naturel liquéfié des États-Unis et aussi du Qatar, donc ça pèse sur la consommation. L'électricité, alors, normalement, l'électricité, on devrait être complètement protégé, parce qu'elle est issue en quasi-totalité de nos parcs nucléaires. Le problème, c'est qu'avec le marché européen de l'énergie, qui a tendance à fixer, enfin, qui fixe le prix de l'électricité sur le prix de la dernière centrale thermique mise en fonctionnement, ça rend le prix de l'électricité dépendant de celui du gaz. Alors ça, on risque de le voir arriver dans les semaines ou dans les mois qui viennent, si la crise continue en Iran, on risque d'avoir une hausse du prix d'électricité, alors qu'elle ne serait pas du tout due à des conditions de production. Voilà. Donc ça, c'est un autre scandale, qui concerne l'énergie.
Et les prix du gaz, en revanche, eux, dépendent aussi largement de ce marché mondial. On sait que 20% du gaz mondial transite par le détroit d'Ormuz.
Voilà, tout à fait, ouais, comme je disais, voilà. Et comme en plus, il y a des capacités de production ont été touchées au Qatar et dans d'autres pays du Golfe. Donc, même si la crise devait s'arrêter rapidement, ce qui n'est pas gagné, il risque d'avoir un prix, il risque d'avoir un impact sur le prix du gaz. Et comme en ce moment et dans les mois qui vont venir, les pays européens vont commencer à reconstituer leur stock pour prévoir l'hiver prochain. Bah, ça arrive plutôt au mauvais moment, quoi.
Merci beaucoup Philippe Erlin pour ces
Merci.
éclaircissements aujourd'hui et puis on vous dit à une prochaine fois.
Ligne droite, le monde autrement, Mériadec Raffray.
Et pour cet entretien hebdomadaire avec Mériadec Raffray, je ne déroge pas aux traditions. Je laisse Richard de Sèze s'en charger. Nous allons parler donc de l'escalade en Iran, Trump à la croisée des chemins. Richard, je vous laisse le micro.
Merci Alexandre et bonjour à Mériadec Raffray, donc rédacteur en chef Monde de Valeurs Actuelles. Et nous allons, bien sûr, comme d'habitude, parler de l'Iran, parce que l'Iran est
Occupe le devant de la
la
scène.
guerre qui est absolument cruciale aujourd'hui. Vous venez de parler avec Alexandre et Philippe Erlin du prix du gaz. Moi, ce qui m'intéresse, c'est évidemment la manière assez spéciale qu'a Trump de négocier. Alors, sachant que depuis quelques semaines, quand Trump dit qu'il négocie, comme il est capable en pleine négociation d'envoyer quelques bombes sur le pays avec lequel il est en train de négocier, le fait qu'ils sont en train de nous expliquer que les négociations avancent beaucoup et l'Iran qui est en train de nous expliquer, elle, que pas du tout, les négociations n'avancent pas et qu'en fait tout ce que demande Trump est absolument irréalisable et outrancier, on a de légers doutes sur la manière dont les choses se passent.
Bonjour.
Éclairez-nous.
Bonjour Richard, bonjour Alexandre. Effectivement, ce que d'ailleurs les mollahs reprochent, c'est aux États-Unis, évidemment, leur manière de négocier. À propos des fameux 15 points que Donald Trump est censé avoir proposés aux Iraniens, c'est-à-dire une nouvelle feuille de négociation, le patron du Parlement iranien, Mohamed Ali Ghalibaf, lui a rétorqué « Pour les Américains, c'est une manière de réussir ce qu'ils ont échoué à faire avec les frappes aériennes », et en réalité, on voit bien que Donald Trump ne veut pas négocier, ou s'il veut négocier, il veut négocier une feuille de route qui revient à une capitulation iranienne. Donc on revient au début, en fait, la veille d'avant les frappes, c'est-à-dire il y avait une négociation en cours, et cette négociation était finalement une fausse négociation. Quand vous demandez à votre ennemi d'acter une capitulation lors d'une négociation, ce n'est pas une négociation si votre ennemi ou votre adversaire n'est pas acculé à capituler. On en est à nouveau là. Donald Trump dit qu'il négocie en réalité plusieurs sources autour de la Maison-Blanche, en fait, on laisse entendre qu'il n'y a pas de négociation. Il y a sans doute des contacts indirects entre les États-Unis et l'Iran, via notamment un certain nombre de grandes puissances régionales qui souhaitent, elles, que la négociation puisse reprendre ses droits, par exemple le Pakistan. On sait que sans doute ce fameux accord en 15 points, cette proposition de négociation en 15 points a transité par le chef d'état-major de l'armée pakistanaise. Pakistan, qui, vous le savez, est aussi comment dirais-je, le parrain stratégique de l'Arabie Saoudite. Donc tous ces gens-là se parlent. On sait aussi que les Turcs ont des velléités de jouer les go-between entre l'Iran et les États-Unis. Et j'en profite pour dire, par exemple, qu'hier, à nouveau, l'Iran a tiré un missile balistique en direction de la Turquie. Il a été arrêté, donc encore une preuve d'escalade. Il y a aussi, on peut aussi citer Oman, évidemment, qui continue à jouer les bons offices. Mais en fait, Cette proposition et ces messages de Trump expliquant que l'Iran serait prêt de signer la négociation, on négocierait, ils doivent négocier sinon le feu s'abattra sur eux, c'est une technique désormais qui est traditionnelle, que l'on comprend, qui est traditionnelle de Donald Trump, c'est que pendant qu'il amuse la galerie avec ses tweets, en réalité il gagne du temps. Pour passer à la phase suivante, il gagne du temps c'est aussi une manière de rassurer ses vrais stakeholders, ses vrais actionnaires, c'est-à-dire les marchés financiers et les grandes compagnies pétrolières mondiales qui, elles, réagissent mal au mois qui vient d'être écoulé.
Pardonnez-moi, je vous interromps. Vous avez raison, c'est une tactique qu'on connaît et qui maintenant, oui, du coup, paraît totalement inefficace. En fait,
voilà, j'allais y venir. Exactement.
En fait, depuis qu'il est là et qu'il y a en permanence j'avance, je recule, je dis n'importe quoi, je fais le contraire, et donc on est censé être désorienté. Non, maintenant, très bien, on a compris que Donald Trump, effectivement, essaye de créer un halo de désinformation ou de mauvaise information ou d'incompréhension et qu'il poursuit ses objectifs. Comme en parallèle, on est en train de nous expliquer qu'il y a des mouvements pour faire en sorte qu'il y ait des troupes au sol, que de toute façon, les Iraniens refuse absolument tout. On ne comprend même pas en quoi ils gagneraient du temps. Et vous avez parfaitement raison de le souligner. Marchés financiers, eux, n'en sont absolument pas d'accord avec cette tactique.
Alors, et c'est là où c'est inquiétant. Et j'avais intitulé ma chronique ce matin « Le risque de l'escalade ou de l'engrenage ». On y est, en fait. Et vous avez complètement raison de souligner ce point. C'est que jusqu'à présent, les marchés réagissaient assez bien, assez positivement, en fait, au tweet de Trump expliquant qu'en fait il souhaitait négocier, mais cela semble désormais beaucoup moins le cas, puisque je faisais encore un point sur les marchés et sur les cours des hydrocarbures hier, en particulier en Asie, les marchés désormais dévissent, et quant au cours des hydrocarbures, ils ne baissent plus à chaque annonce de Donald Trump selon laquelle il négocierait avec les Iraniens. Le pétrole était hier, le Brent était hier aux alentours de $117 le baril, c'est considérable. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que l'on voit bien que Donald Trump, en fait, est désormais prisonnier du piège tendu par les mollahs à Hormuz, et qu'il doit désormais, il est désormais devant un dilemme qu'il semble vouloir résoudre de la manière dont je vais l'expliquer. Mais le dilemme est le suivant, c'est que un mois de bombardement, et en réalité, les effets des bombardements escomptés n'ont pas eu lieu. Et donc, non seulement les effets des bombardements escomptés n'ont pas eu lieu, c'est-à-dire que le régime n'a pas changé, le régime ne lève pas le pouce en disant « nous capitulons face à la force et des bombes ».
Le régime n'a pas capitulé, le peuple ne s'est pas révolté.
Alors oui, c'est ça, mais ça allait de pair, disons. Vous avez raison, le peuple, lui, est tétanisé. Et la dernière fois qu'il a voulu se révolter, début janvier, il y a eu plusieurs dizaines de milliers de morts. Le chiffre est inexact, mais enfin, on est dans ces ordres d'idées, ce qui est considérable. Et donc, d'un côté, ils prennent des bombes américano-israéliennes avec le risque que cela encourt sur les populations civiles. De l'autre, s'ils descendent dans la rue, ils affronteront les balles réelles des mollahs. Et pendant ce temps-là, les infrastructures du pays commencent à être vraiment mises à mal par le plan israélo-américain qui désormais s'attaque aux infrastructures électriques. On se retrouve dans le même schéma qu'en Ukraine, je vais en parler plus tard.
Effectivement, alors, attendez, avec l'alliance américano-israélienne qui a la même tactique que celle des Russes.
Exactement, c'est assez, le parallèle devient assez flagrant, mais juste avant ça, je voulais terminer sur la problématique, le dilemme de Trump. Et en fait, je suis en train d'essayer de retrouver mon idée.
Ah pardon.
Ça arrive de temps en temps, on est mal réveillé. Donald Trump a besoin, Donald Trump est face à un dilemme. Soit il dit aujourd'hui, il trouve un prétexte pour dire j'ai gagné, j'ai rempli mon contrat et je rentre à la maison. et il évite l'escalade. Soit en fait, il fait ce qu'il a l'air de l'option qu'il a l'air de prendre, à savoir, il n'a pas suffisamment d'arguments pour pouvoir se retirer en beauté, et donc il va passer à l'étape suivante. Il escalade avec le risque majeur de l'engrenage régional et mondial. Il s'apprête à réaliser une opération terrestre, et c'est pour cela qu'il continue à expliquer qu'il négocie, car il a besoin de temps, parce que amener des avions au Moyen-Orient, c'est court, c'est rapide. Amener des troupes au Moyen-Orient, surtout pour avoir une chance de produire un effet politique, c'est une autre paire de manches, ça prend du temps. Il faut soit ils viennent de l'Asie, du Japon, soit ils viennent des États-Unis. En bateau, on traverse pas ces océans d'un coup de sifflet. Et donc, c'est ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire qu'ils gagnent du temps. Pendant ce temps-là, le Pentagone lui a mis des options, plusieurs options sur la table, et parmi toutes ces options, il y a l'option terrestre avec un certain nombre de déclinaisons. Et j'en termine quelles sont les options qui sont sur la table selon les révélations qui se multiplient dans la presse américaine, parce que évidemment le Pentagone garde ça tout à fait secret, mais en même temps c'est une manière continuelle de mettre la pression sur les mollahs, donc c'est toujours le même raisonnement de Trump: je négocie, mais attention, si vous négociez pas, je vous frapperai encore plus fort, et d'ailleurs je prépare une opération terrestre. Et donc d'un côté, donc de l'Est, viennent d'arriver quelques milliers de Marines qui sont en permanence, si vous voulez, affectés dans des gros portes hélicoptères de combat, des bâtiments énormes. En l'occurrence, c'est l'USS Tripoli qui était basé du côté du Japon et qui vient d'arriver au Moyen-Orient avec des capacités amphibies importantes. Mais enfin, on parle de 2000 ou 3000 hommes, hein, c'est pas voilà. Et de l'autre, on sait que le président et le Pentagone ont mis en alerte une partie de la 90e division aéroportée américaine, la fameuse 82e, celle qui avait participé au débarquement de Normandie en 1944. C'est une division qui comporte à peu près 30 000 hommes, mais là on parle d'une brigade, c'est-à-dire on parle de 2-3 000 hommes. Enfin, si les chiffres sont exacts, ce sont les fuites organisées, orchestrées dans la presse américaine qui me permettent de donner ces chiffres. Je n'ai pas la réalité. On sait, enfin, selon les médias américains, le supplément en fait de troupes potentiellement déployées dans la région aujourd'hui, ce serait environ 10 000. Juste pour vous donner une idée, un ordre d'idée, quand les Américains ont envahi l'Irak en 2002-2003, ils ont mis au départ sur le terrain 250 000 hommes. Ça vous donne une idée. Donc avec ça, qu'est-ce que les Américains voudraient ou se préparent à faire? Sans doute un coup d'éclat dans une des îles du golfe Persique, soit par exemple prendre l'île de Karg qui se trouve au nord-est, au large de l'Iran, dans la partie nord-est du golfe Persique, qui est le grand terminal pétrolier par lequel transite en fait une bonne partie, je crois que c'est 90% de la production de pétrole iranienne. Donc ils arrivent là par des gros pipes, des tuyaux, et ensuite ils sont transvasés dans des pétroliers qui ensuite repartent dans le monde entier. Et donc ce serait en fait verrouiller l'or noir de l'Iran, qui lui continue à sortir du golfe Persique via le détroit d'Ormuz par autorisation spéciale des mollahs qui choisissent leurs pétroliers et qui au passage prennent une dîme. L'autre option,
et d'ailleurs,
ce serait...
les revenus pétroliers de l'Iran se sont considérablement augmentés depuis le début de la guerre.
L'autre option, ce serait de faire un clou d'éclat sur une des tout petits îlots qui sont globalement, pour ceux qui ont la géographie en tête, entre la côte iranienne du côté du détroit d'Ormuz et à l'ouest, la côte des Émirats Arabes Unis, en particulier au large de Dubaï. Entre Dubaï et la côte iranienne, il y a plusieurs îles. Il y a la fameuse île d'Abu Moussa, il y a les fameuses grandes et petites tombes qui sont des micro-îlots, mais qui permettraient, en tout cas symboliquement, de contrôler ou de prendre le contrôle de ce fameux détroit. dans la perspective de vouloir forcer, de vouloir rentrer par la force avec des navires de combat pour forcer en fait la liberté de ce détroit. C'est à peu près. Et puis il y a une quatrième option dont on parle, mais qui me paraît quand même assez assez farfelue. Ce serait l'idée d'aller faire une opération spéciale pour aller chercher les fameux 400 kilos d'uranium enrichi, si tant est que les Américains savent où ils sont. Les risques sont considérables. Ça suppose d'amener des hélicoptères au sol.
Oui, et puis surtout, à quoi ça servirait
Alors, c'est ça. L'idée, ce serait de pouvoir enregistrer une victoire symbolique suffisamment médiatiquement forte, si vous voulez, politiquement forte, pour dire voilà. Nous avons cassé la marine iranienne, nous avons cassé le potentiel militaire des gardiens de la révolution, nous avons tué leur chef et nous venons de leur mettre le coup définitif, le coup qui nous permet aujourd'hui de dire nous avons gagné. Moi, Donald Trump, j'ai encore réussi un coup d'éclat et donc maintenant c'est terminé, je rentre à la maison et je prends mes gains et non pas mes pertes. Simplement, et c'est là où l'engrenage, où l'escalade et l'engrenage sont... à mon avis, au tournant, attendre Donald Trump au tournant s'il fait ça. D'abord, mettre des troupes au sol à moins d'une opération ultra calibrée, millimétrée, éclair, c'est-à-dire, comme disent les militaires, hit and run, c'est-à-dire on se pose et on repart. Et entre-temps, on a mis le drapeau sur le caillou et on filme et on dit « j'ai gagné ».
Parlez-moi, je vous interromps parce que ça fait exactement penser à ce que l'armée israélienne a tenté au Liban il y a quelques jours, où ils ont fait une opération où on arrive très rapidement, on récupère le corps du soldat mort il y a quelques dizaines d'années et on repart, ben, ils sont arrivés, ils se sont fait tirer dessus, bilan 41 morts chez les Libanais et ils sont repartis sans le corps qui était censé être là. Autrement dit, ces opérations hit and run, comme vous dites, ne sont absolument pas certaines de réussir. On a beau nous expliquer qu'au Venezuela, l'intelligence artificielle avait permis faire des trucs absolument épatants. Ça fait des dizaines d'années que les Iraniens sont en train de se préparer à une invasion. Il y a quand même peu de chances que ça marche comme sur des roulettes.
Alors le Venezuela, finalement, c'est un cas exceptionnel. Ça a fonctionné d'une manière magistrale. Mais simplement, le Venezuela n'est pas l'Iran ou l'Iran n'est pas le Venezuela. Et vous avez évidemment raison. Laissons de côté l'opération israélienne au Liban qui est assez mystérieuse. C'est quelque chose qui n'est pas clair du tout. Mais c'est le même principe, en fait. Et effectivement, les risques sont considérables, c'est-à-dire que les États-Unis soient obligés de reconnaître des morts physiques. Si les bateaux entraient de force, ce qui serait peut-être possible pour un coup, si vous voulez, dans le détroit d'Ormuz, il est évident que les Iraniens n'auront de cesse de couler un navire américain, de filmer le sabordage, le navire en feu et de l'envoyer sur tous les réseaux sociaux du monde entier. Et cette image serait absolument désastreuse pour l'Amérique, la marine américaine et l'Amérique. Et là encore, ça ne signerait pas la fin de la puissance militaire américaine, évidemment, mais ce serait une défaite politique pour les États-Unis, étant donné... étant entendu qu'aujourd'hui l'Amérique est en train de subir une forme de défaite politique vis-à-vis de l'Iran. Je dis bien politique, je n'ai pas dit militaire. Et c'est ça le sujet de Donald Trump, c'est-à-dire qu'il a mis le doigt dans un engrenage dans lequel, pour produire des effets militaires, compte tenu de tout ce que l'on sait de l'Iran, ce que vous avez rappelé, il fallait que la force militaire soit absolument écrasante. Et que l'Amérique soit prête à réaliser une opération d'envergure dans une vraie durée, ce qui n'était pas évidemment le cas au départ. On le comprend aujourd'hui, on comprend de plus en plus à travers les lignes avec le recul aujourd'hui que Donald Trump finalement s'est laissé aller à une opération d'opportunité. C'est l'histoire selon laquelle en fait cette opération Fury épique qui était sur la table a été déclenchée non pas de nuit, mais de jour, un samedi matin, parce que les Israéliens avaient repéré une réunion de tous les chefs du Mollah qui leur ont permis de faire un énorme strike, une frappe donc sur ces chefs-là. Et puis ensuite, on est rentré dans l'engrenage. Simplement, cela dit, il ne faut pas Oubliez non plus le fait qu'au Pentagone, les plans étaient prêts, les plans sont prêts depuis des années, c'est ce que j'ai écrit, c'est ce que l'on sait aujourd'hui. L'un n'est pas exclusif de l'autre, si vous voulez. Simplement, on voit bien là que la manière dont Donald Trump a imaginé et réalisé et débuté cette opération était une opération type Venezuela, politique, avec l'idée qu'on pourrait produire un effet suffisamment fort pour déstabiliser le régime et provoquer un changement de gouvernance à Téhéran. Ce n'est pas le cas.
Alors, il y a aussi une autre dimension. Donc, on l'a brièvement évoqué tout à l'heure. Donc, c'était un article de The Economist qui expliquait que les revenus de la vente du pétrole ont doublé depuis le début de la guerre pour les Iraniens. Donc, et ils expliquent dans le même article que Téhéran a augmenté fortement ses tirs de missiles depuis une semaine, plus 70%. Alors, c'est peut-être vrai.
Oui.
Mais si c'est vrai, évidemment, là aussi, ça contredit un petit peu le narratif américain, comme quoi on a annihilé les capacités défensives de l'Iran.
Alors en fait, 70% depuis une semaine, c'est un chiffre important, mais je pense que ce qu'il faut regarder, c'est sur la durée, c'est sur le mois. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu une diminution des tirs israéliens, mais il est vrai...
Enfin, des tirs iraniens.
Des tirs iraniens, pardonnez-moi, en particulier de missiles. Mais en fait, on observe une remontée en puissance de la cadence de ces tirs, peut-être pas forcément en volume, mais en tout cas en précision. C'est-à-dire que finalement, moins elle tirait, plus elle était précis. Et là, effectivement, ces derniers jours, je les ai recensés avant de venir. Ce week-end, par exemple, ils ont, que je retrouve, que je sois précis... ils ont tiré sur l'Arabie Saoudite. Il y a eu 24 blessés militaires américains, puisque le tir est arrivé sur une base américaine en Arabie Saoudite. Ils ont tiré des drones sur Oman. Ils ont tiré des drones et des missiles sur l'aéroport international de Koweït. Tout ça dans un week-end. Ils ont endommagé une partie d'une très très grosse usine d'aluminium des Émirats Arabes Unis. Et... hier, les Iraniens ont visé à nouveau la Turquie. Et puis, on pourrait y ajouter le fait que les milices chiites irakiennes ont, ce week-end ou en début de semaine, tiré pour la première fois sur des bases américaines et aussi syriennes dans l'est de la Syrie. C'est-à-dire qu'ils ont visé Al-Shara, le frère ennemi sunnite, allié aujourd'hui avec l'Amérique. Amérique d'ailleurs qui incite fortement le fameux Al-Shara alias Al-Julani, le boucher d'Al-Qaïda, l'ex-boucher d'Al-Qaïda, à intervenir, à envahir l'est du Liban. Et en décrivant cela... en fait, je décris ce qui peut aujourd'hui de plus, ce qui a de plus en plus de chances ou d'une forte probabilité plutôt d'advenir, c'est-à-dire une extension géographique. J'en parlais la semaine dernière, mais là on y est quoi, quasiment. C'est-à-dire que si les Américains augmentent en fait leur investissement guerrier en Iran, on va avoir une augmentation exponentielle, et je rejoins donc The Economist dans le sens en fait de chiffres qu'il donne, c'est-à-dire qu'on va avoir une extension généralisée de la riposte iranienne avec plein de foyers qui vont monter en puissance via tous les proxys de l'Iran. Et pour terminer cette description des 72 dernières heures, hein, il ne s'agit pas de 15 jours, ce week-end, les fameux outils dont tout le monde se demandait pourquoi ils étaient restés finalement en retrait de cette bataille asymétrique depuis un mois, ont lancé à nouveau leur premier missile sur Israël. Les outils qui, je le rappelle pour nos auditeurs qui nous prendraient au vol ce matin, sont cette milice chiite qui contrôle depuis 2014 ou 2015 le nord-ouest du Yémen, la partie en fait côtière qui est juste en amont en fait du fameux détroit de Bab el-Mandeb qui verrouille la mer Rouge à son débouché sur l'océan Indien. Ce détroit de Bab el-Mandeb qui mesure à peu près une trentaine de kilomètres comme les détroits d'Ormuz et qui est là par où transite, pardonnez-moi du peu, 12% du commerce mondial et je pense bien plus que 50% en fait du commerce qui concerne l'Europe. Donc vous avez là à nouveau un risque, une deuxième épée de Damoclès, c'est ce que je disais la semaine dernière, mais qui aujourd'hui se confirme, qui menace de tomber sur la tête des Occidentaux qui ont absolument, vitalement besoin de ce détroit. Donc vous auriez le piège américain et vous auriez la bataille américaine d'Hormuz. Et dans la foulée, en même temps, simultanément, nous aurions à nous dépatouiller d'une deuxième bataille des détroits, celui de Bab el-Mandeb. Voilà, nous sommes mardi matin, il est 9h20. Voilà quelle est la description, en fait, du champ de bataille non clos. Et je vais revenir avec l'Ukraine, c'est la grande différence avec l'Ukraine. Le champ de bataille non clos chaque heure qui passe est en train de s'élargir et de s'étendre dans des proportions impossibles à esquisser aujourd'hui, à une exception près. Et on revient sur l'économie, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien que les bourses et les marchés n'obéissent plus au doigt et à l'œil au tweet de Donald Trump. Voilà un peu la description, et si vous voulez, on peut faire un parallèle avec l'Ukraine.
Alors, il y aurait effectivement ce parallèle avec l'Ukraine, notamment dans la manière dont la tactique russe de cibler en fait les infrastructures énergétiques a l'air d'être la tactique israélo-américaine. Et voilà, il s'agit non pas d'attaquer directement les civils, mais il s'agit de rendre la vie des civils absolument impossible. Et puis, il y a quand même une autre question, il nous reste 9 minutes, il faudra qu'on essaie de répondre aux deux. Que se passe-t-il si les Américains se retirent parce que Trump veut prétendre à la victoire, mais que les Israéliens ont envie de continuer?
Si les Américains se retirent, en fait, c'est là le piège incroyable qui a été tendu par les mollahs Donald Trump. Si les Américains se retirent, c'est un camouflet politique et même presque militaire, même s'il n'y a pas eu de défaite militaire américaine, attention. Mais de facto, ce serait une véritable défaite politico-stratégique, si vous voulez, des États-Unis face aux petits mollahs iraniens dont Trump disait qu'il ne ferait qu'une bouchée. Donc ce serait un événement considérable dans l'affaiblissement qui donnerait raison à ceux qui, depuis des années, expliquent que l'Amérique est aujourd'hui dans une phase de déclin accéléré. Je pense notamment à Emmanuel Todd. Ça, c'est un vrai sujet. Et là, l'autre question, évidemment, que vous avez soulevée et qui est fondamentale, c'est qu'adviendrait-il d'Israël? C'est une question difficile. Je ne peux pas répondre comme ça à cette question de prospective. Ce qui est intéressant à noter, ce qu'il me semble se passer aujourd'hui, c'est qu'Israël, la stratégie israélienne consiste à tenter de verrouiller les États-Unis avec elle dans le conflit. Et donc, on voit bien qu'Israël tente de faire en sorte que l'Amérique ne puisse plus se décrocher d'elle dans ce conflit, autrement dit d'inscrire avec elle l'Amérique dans une perspective de militaire de long terme contre l'Iran. Ça, je pense que c'est aujourd'hui assez clair. Et du reste, plus l'Iran en fait s'en prend aux gens du Golfe Persique, aux monarchies du Golfe Persique, aux golfiques, comme disent les experts, plus en fait l'Amérique sera contrainte de se verrouiller avec Israël pour défendre le Golfe Persique. Et il y a une semaine, quand Israël, contrairement à ce que disent un certain nombre de commentateurs, quand Israël a pris pour la première fois l'initiative d'envoyer des missiles sur les infrastructures de production, et tous les mots sont précis, c'est bien Israël qui, en fait, esquisse cet engrenage qui, évidemment, en appelait une réponse iranienne qui a eu lieu. Je parle des installations de production de gaz du Qatar. Et on voit bien que, dans cette perspective-là, l'idée, c'est d'obliger, en fait, de contraindre mécaniquement les golfiques à entrer à leur tour dans l'agression contre l'Iran pour défendre leur propre territoire et leur propre ligne rouge. Et de ce fait-là, il deviendrait beaucoup plus difficile à l'Amérique de sortir, de filer à l'anglaise de cette région dans laquelle, effectivement, leur stratégie est très floue. Et c'est ça, à mon avis, le vrai danger. C'est cette... on voit bien qu'Israël est prêt... que Benjamin Netanyahou est prêt, en fait, à jouer la stratégie du chaos. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que les stratèges politiques de Jérusalem préfèrent le chaos en Iran et dans la région plutôt qu'un Iran qui serait toujours menaçant par ses missiles, par le nucléaire, par ses proxys dans la région. Et c'est là d'ailleurs où se situe le débat stratégique en Israël. En Israël, je crois que il n'y a pas grand débat sur le fait que l'Iran était une puissance menaçante et qu'il fallait d'une manière ou d'une autre la neutraliser. Le débat chez les experts, et je ne parle pas de Netanyahou, se situait sur la bonne manière de faire. En 2015, il y avait quasiment un consensus chez les experts israéliens pour reconnaître le fait que l'accord sur le nucléaire était une bonne chose. Elle figeait le programme nucléaire iranien, et le contrôle par l'Agence internationale de l'énergie atomique, un organisme indépendant, assurait en fait que l'Iran respecte ses obligations, ce que tous les diplomates français, enfin les experts, s'accordent à reconnaître. Bon, en 2018, Donald Trump pétarde cet acquis. C'était un acquis qui était le fruit d'une négociation. Donc évidemment, il y avait dans une négociation, il y avait des choses positives et des choses d'échecs, si vous voulez. Par exemple, les balistiques n'étaient pas intégrés dans cette négociation. Donald Trump pétarde cet acquis, et à ce moment-là, on revient dans le cycle de la dissuasion versus capitulation. Et c'est ça, à mon avis, le danger, c'est qu'Israël joue la carte du chaos maintenant qu'elle est lancée dans cette grande stratégie guerrière pour remodeler le Moyen-Orient, qui a marqué, qui a porté des fruits, mais dont on voit que les fruits peuvent être très temporaires. Et on en vient au Liban, puisque vous vouliez qu'on dise un mot du Liban. Aujourd'hui, la grande surprise d'un certain nombre d'experts, c'est que, en novembre 2024, le Hezbollah avait lui-même reconnu sa défaite face aux bombes israéliennes. Et quelques mois plus tard, il est capable, sous les bombes israéliennes aujourd'hui, de continuer à lancer plusieurs dizaines, on parle même d'une centaine de roquettes encore ce week-end, de l'autre côté d'Israël, alors même qu'Israël frappe en permanence des dizaines de fois par jour ses positions avec sa chasse et ses drones, d'une part, et que d'autre part, elle met la pression au sol avec trois divisions qui sont massées à la frontière, des divisions blindées, des dizaines de chars Merkava, qui aujourd'hui progressent lentement, mais méthodiquement, en fait, dans les premiers kilomètres de l'autre côté de la frontière, pour, selon les stratèges de Jérusalem, reprendre et continuer en fait le travail entrepris en novembre 2024 de façonner en fait cette zone tampon. Façonner, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire détruire tous les obstacles qui permettraient au Hezbollah de se cacher, de revenir, etc.
Ça veut dire raser les villages.
Voilà, hein, ça veut dire la stratégie de la terre brûlée. C'est exactement ça. Et ce week-end, les stratèges de Jérusalem, et notamment le patron de Tzal, vient de dire qu'il allait falloir accélérer en fait ce mouvement pour aller directement du côté du Litani, c'est-à-dire ce fleuve qui marque en fait la frontière entre le Liban et le Sud-Liban. C'est une bande d'environ 40 km de large sur 20, 25, 30 km de long jusqu'à ce fleuve. Les Israéliens cassent méthodiquement tous les ponts qui permettent de passer d'un côté à l'autre du Litani en ce moment. Ils sont en train d'encager en fait ce fleuve, et ils réalisent un mouvement en tenaille, tournant, on le voit bien. D'un côté, ils progressent du côté de la mer, du côté de Nakoura, donc sur la partie ouest du sud du Sud du Liban, et de l'autre, il progresse au nord du doigt de Galilée, c'est-à-dire du côté de Kiam, du côté de Marjeyoun, et vers l'ouest, c'est-à-dire vers le Litani. Ils sont quasiment à la hauteur du Litani. Et entre ces deux extrêmes géographiques, il progresse aussi au centre, où il rencontre des forces du Hezbollah qui ne se laissent pas faire. Les combats sont acharnés. Il y a déjà de nombreux morts. Alors, les Israéliens disent qu'ils ont déjà tué 700 hommes du Hezbollah, mais les soldats israéliens ont payé leur écho par le sang déjà à ces quelques semaines de combats sporadiques. Et les missiles volent. Sur un plan horizontal, mais aussi sur un plan vertical, depuis le sol. C'est aussi une nouveauté. On voit d'ailleurs apparaître chez les gens du Hezbollah des matériels que l'on voyait en Ukraine. Les choses deviennent très compliquées, à telle enseigne, s'il me reste une minute, que...
40 secondes.
40 secondes, que le chef d'état-major de l'armée israélienne a dit ce week-end que s'il fallait qu'il distrait un certain nombre d'unités pour venir renforcer Tsahal en Cisjordanie, où, vous savez, ce week-end, le gouvernement a reconnu 30 points pris de vive force par les colons à l'intérieur du territoire cisjordanien sous gestion palestinienne, ce qui crée évidemment des heurts avec les Palestiniens. S'il fallait qu'ils distraient un certain nombre d'unités pour pouvoir gérer ce chaos qui est en train de monter fortement, cela allait lui causer un vrai problème pour faire effort au nord, où il a besoin d'énormément de troupes pour pouvoir compenser en fait le fait qu'il attaque le Hezbollah en défense, que le Hezbollah est chez lui et que le terrain est favorable aux défenseurs.
Merci beaucoup Meredek Raffray, et bien sûr à mardi prochain pour suivre hélas cette guerre passionnante.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016, Paris.
Ligne droite, la revue de presse de Gilles Brochard.
Et c'est l'heure de la revue de presse. Bonjour Gilles.
Bonjour Alexandre, bonjour Franck, bonjour chers auditeurs. Le numéro d'avril de Service littéraire, le journal de François Cereza, est paru. Le journal des écrivains fait par des écrivains est-il écrit en une ? C'est donc un journal qui a de la tenue, du chien, du style, très littéraire certes, ce qui ne l'empêche pas d'être corrosif, avec un côté canard enchaîné mordant, s'en prenant avec talent à des personnalités politiques qui méritent d'être chahutées. Certains passages rappelle aussi le bon vieux temps de l'idiot international de Jean Edernalier, aussi pertinent que méchant. Tenez, prenez l'une de ces personnalités qui aime se faire battre et qui ne cesse de donner du grain à moudre. Jean-Luc Mélenchon, au hasard. Cible facile, me direz-vous. François Cereza, dans son édito de première page, lui règle son compte. Je vous en donne un extrait. Le camarade qui marche main dans la main avec les islamistes, désormais critiqué par Libé pour ses dérapages, que pense-t-il de ces pétinistes qui venaient de la gauche socialiste et communiste ? On l'imagine qui persifle et siffle dans son coin. Son ombre se découpe sur le mur de plus en plus chancelant de sa jeune garde qui déplore la mort de l'ayatollah Khamenei. L'extrême gauche, après avoir bouffé du curé, lèche les babouches des mollahs. Robespierre doit se retourner dans sa tombe. Et Cereza de conclure, l'extrême gauche aime le totalitarisme. La France insoumise serait-elle la France infernale ? Et le camarade Mélenchon, avec ses sifflements et ses ombres, serait-il M le maudit ? Autre règlement de compte ? Toujours dans Service littéraire, celui d'Ursula von der Leyen par Gilles Martin-Chauffier, toujours en première page, pour se poursuivre en page 2. C'est le chaperon blond de Bruxelles, commence-t-il sa charge, et la bonne fée de Kiev en Ukraine, il la regarde comme la voûte céleste. Dans les sommets internationaux, elle semble être neuve et fraîche comme un verre d'eau. Au milieu de tous ces bons hommes cravatés et rebondis, elle a l'air d'une légère hermine égarée dans une colonie de pintades. Et un peu plus loin, Martin Chauffier enfonce le clou. Face à l'Amérique, qui roule des épaules, elle baisse le front comme une petite sainte sortie d'un médaillon en forme de cœur. Elle délègue même des représentants au nouveau Conseil pour la paix, dernière farce en date de la Maison-Blanche. À part la route et à la roue et le chevalet, elle n'aura rien épargné à nos agriculteurs. Depuis des années, d'une voix d'hôtesse de l'air, elle leur énonce des règles inacceptables et inapplicables, et à la fin de sa chronique qui tente de la désinguer, il l'assassine par ses mots tranchants. Travailler pour elle, c'est comme s'engager chez Blackwater ou dans l'Africa Corps de Wagner. Les informations, elle les garde pour elle, et si vous la contrariez, elle vous vire comme Thierry Breton. De toute manière, si la France coule, ce ne sera pas parce que l'eau a monté, c'est parce que notre barque aura coulé sous le doux regard d'Ursula. Et bon, en dehors de ces chroniques politiques, je vous conseille de lire toujours dans Service littéraire l'article en une consacré par Bernard Morlino à Maurice Leblanc. On apprend ainsi que celui qui fut un temps salarié d'une usine avant de se lancer dans le journalisme, le reportage pour Gil Blas, Comédia ou Le Figaro, avant d'écrire des nouvelles policières pour le nouveau magazine Je sais tout en 1905. Mais surtout, il crée un nouvel héros qui l'appelle d'abord Arsène Lopin, du nom d'un conseiller municipal qui était en conflit avec l'administration. Et se sentant diffamé, il menace de porter plainte. Et c'est alors qu'Arsène change de nom et s'appelle désormais donc Arsène Lupin et non plus Lopin. Et la figure novatrice de ce personnage n'est pas que celle d'un audacieux aventurier, mais c'est surtout, écrit encore Morlino, un solitaire témoin et même dénonciateur des hypocrites et égoïstes qu'il dépouille. Et Pierre Lazareff écrira dans la préface de son roman Arsène Lupin, gentleman cambrioleur, en 1907, que son héros est un anarchiste qui se vit comme un aristocrate, un personnage qui sera toujours plus connu que son créateur. Alors, autre sujet, la diplomatie, et à travers elle, sa fameuse valise. Savez-vous combien la France dispose d'ambassades, de consulats dans le monde ? Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 163 ambassades, 92 consulats et 16 représentations permanentes de par le monde. Une des trois plus importantes, et Jean-Marc Leclerc dans le Figaro a voulu en savoir plus aujourd'hui à l'heure du conflit mondial. Les activités du service de la valise diplomatique sont aussi anciennes que le Quai d'Orsay, écrit le journaliste. En ces temps troublés, ces 46 agents sont plus que jamais sollicités pour accomplir une tâche essentielle à la souveraineté nationale. Une mission que protège la Convention de Vienne de 1961, régissant les rapports entre États, l'immunité diplomatique et l'inviolabilité des ambassades. Frédérique Camilleri, la directrice de la sûreté diplomatique du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, a fait le chemin depuis Paris pour ouvrir au Figaro les portes de cette fameuse valise, comme on dit, entre initiés. Et cette femme haut fonctionnaire, ancienne préfet de police de Marseille, au pire heure de la guerre entre les narcotrafiquants de la DZN Mafia et du clan Yoda, a l'habitude des postes délicats. C'est que la France a toujours son ambassade à Téhéran. Le personnel travaille avec courage, dans un climat difficile, salue la directrice de la Sûreté du Quai. Selon elle, sur les 14 000 agents du ministère, 2 000 travaillent actuellement dans des postes situés en zone de crise. Et ceux des emprises françaises en Ukraine vivent sous la menace des bombes et des drones. Tout comme ceux basés en Israël ou à Beyrouth, et dans une moindre mesure à Dubaï, au Qatar ou aux Émirats Arabes Unis, la France disposant par exemple dans ce pays de 4 implantations entre l'ambassade, le consulat et les 2 résidences associées. L'article révèle que tout passe par la valise diplomatique, des voitures blindées pour les ambassadeurs, du mobilier et même des coffres-forts. Savoir aussi que la valise accompagnée achemine tout ce qui est classifié, souvent des documents officiels mais aussi de l'électronique, comme des systèmes de cryptage pour les ordinateurs. C'est effectivement un agent dédié, le courrier du cabinet, vieille expression encore en usage, qui assure le convoyage. Mais il n'y a pas à proprement parler de valise, c'est plus généralement un sac à l'effigie de la valise diplomatique, et cette inscription bien visible est d'ailleurs obligatoire. Voilà, à lire ce passionnant récit dans le Figaro. Et puis Céline Dion a diffusé hier un message aux Parisiens, « Paris, je suis prête », message qui s'est affiché en grand sur la Tour Eiffel en 5 langues, y compris en chinois, cela après 5 ans de report et d'annulation, comme l'écrit le Parisien. Et Céline a fêté ses 58 ans hier, lundi, mais de son côté, elle a envoyé un cadeau au monde entier en envoyant une vidéo annonçant qu'elle sera à Paris à la Défense Arena du 12 septembre au 14 octobre pour 10 représentations, donc le mercredi et le samedi. Et elle sera là début septembre pour répéter En attendant, elle sort 3 disques à partir du 17 avril, notamment une ballade écrite et composée par Jean-Jacques Goldman, puis avant l'été signée Icar et le 3e jour même de sa première date parisienne. Un album en français suivra en fin d'année au courant 2027. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à demain.
Zone libre.
À demain Gilles, merci beaucoup. Alors pour cette zone libre, chers éditeurs, je suis très heureux de tous vous retrouver. Alors je suis accompagné de Louis Rigaudière.
Mais oui, bonjour, c'est moi, bonjour à tous les auditeurs.
En vrai.
Toujours
en
vous,
vrai.
Et puis Magda Hautefeuille. Magda Hautefeuille, ce matin vous allez nous parler de fesses.
Bah exactement, je vais vous parler de fesses.
Ça commence bien, non mais c'est...
Qui est donc la deuxième plus grande ville du Maroc en fait.
Où vous étiez d'ailleurs.
Où j'ai été et c'est une ville, voilà, je vous recommande, n'hésitez pas... à aller visiter, c'est la ville culturelle, c'est une ville très culturelle au Maroc. Là où Marrakech est très touristique, Fès c'est un peu le noeud culturel. Et donc pour quand même.
Mais alors comment ça s'écrit qu'on soit,
bon, en
qu'on
fait,
soit bien d'accord.
Ça se dit Fès normalement, mais bon.
Oui, c'est les blagues d'Alexandre.
Ça s'écrit F-E accent grave S.
Ah oui.
Mais donc voilà, pour quand même vous, parler, vous lier un peu au Maroc, lier le Maroc quand même un peu à France, il y a quelque chose d'à moitié dramatique, c'est que Buskis, qui veut dire bisou en français, était un chameau qui vivait dans un charmant château de Castelnouvel qui était situé en Corrèze et va devoir quitter son petit château parce que ce château qui était transformé en hôtel-restaurant va fermer.
Oh la vache.
Et les employés se sont beaucoup occupés de Buskis et Buskis va finalement finir dans un ranch en revanche dans le Lot. Voilà.
Dans le Lot, donc de la Corrèze au Lot.
C'est un rêve américain, mais dans le Lot.
C'est son rêve.
Lot, des dromadaires.
Comment
voilà,
on dit Lotet
En quel pays, en quelle langue, en quoi?
Non mais le gentilé du Lot.
Le lotois, le lotais, je vais me renseigner.
C'est une grosse actu quand même que
c'est
vous nous pondez là.
Et puis ça date de ce 24 mars, hein, c'est tout récent.
Ah oui, effectivement,
ouais,
actu brûlante.
C'est actuellement en train de déménager, faire ses petites affaires et partir sur son petit
peut-être
château.
Peut-être pour le grand entretien de jeudi, ça, si jamais.
Sujet, d'ailleurs, sujet, Alexandre, voilà. N'hésitez pas.
On vous enverra peut-être un reportage à ce sujet, Magda. Louis Gaudière, ce sera forcément moins brûlant. Oui, pardon.
Sur le Lot, vous proposiez quoi, vous?
Lotais.
Non.
Erreur.
Lotois.
Ah, bravo.
Ah, merci. Et tout simplement pour le plaisir d'appuyer sur ces boutons. Merci, Franck. Alors bon, là, forcément, ce sera de l'actu moins brûlante et sans doute moins passionnante, Louis Rigaudière. Mais vous
moins
avez sans
brûlante,
doute.
Moins brûlante, parce que l'actualité, hein, c'est quand même tout ce qui touche, c'est le récent, hein, évidemment, tout ce qui est tombé ces derniers jours, pardon. Je vais vous parler de Larry Fink. Est-ce que ça vous parle ?
Waouh, pas du tout.
Larry Fink, c'est le patron de BlackRock. Pourtant, vous avez, c'est une personnalité très importante à l'échelle mondiale et qui a fait un aveu très intéressant sur le wokisme, notamment aux entreprises, qu'il impose aux entreprises et notamment dans les films. Il a enfin reconnu que cette ère woke était une expérience ratée. Mmh. Alors peut-être qu'on est en train de tourner la page définitivement de ce wokisme qui gangrène nos films, nos séries, nos livres et tous nos spectacles au profit d'une nouvelle ère un petit peu plus saine là-dessus, parce que Larry Fink a une incidence absolument majeure là-dessus. En fait, alors, c'est une société à portée mondiale et qui déverse énormément d'argent sur ces entreprises qui respecteraient ou non le wokisme. Et il y avait des critères très précis.
Les critères qu'on appelle en anglais.
Justement, ça m'échappe un petit peu.
DEI, donc oui. Diversity, Equity and Inclusion.
Voilà,
diversité,
exactement.
Équité, inclusion.
Et idéologie qui est née dans les années 2010 et qui a complètement gangréné depuis toutes nos œuvres artistiques. Et voilà.
Je vais vous dire très franchement, et là, pardon, c'est le propos peu
scientifique.
Un peu moins scientifique. Au contraire, ça fait un an que je dis que le wokisme est mort.
C'est pas la première fois que je vois également ce genre d'information, mais c'est la première fois que cet aveu vient de la bouche de Larry Fink, précisément.
Oui.
Ça veut peut-être dire quelque chose.
C'est voir remarquer après à l'investiture de Trump, on se rappelle tous les patrons de la Silicon Valley aussi qui avaient parlé de ça. Enfin bon, bref, on retiendra quand même surtout le chameau Buski et puis les mots de Magda sur fesses. Voilà. Merci d'avoir été avec nous ce matin, chers auditeurs. C'était un plaisir à nouveau d'animer cette matinale. C'est malheureusement la fin du direct sur YouTube et sur X. Quoique, il y a quand même un dernier truc.
Il y a un dernier truc, comme vous dites, cher Alexandre, le dernier truc, c'est que pour que ça continue, Radio Courtoisie, qui émet quand même depuis 1987, eh bien, il faut que nos auditeurs suivent l'aventure et nous aident à poursuivre l'aventure en nous préservant de toute subvention publicitaire, de ressources publicitaires et de subventions. Alors, mettez la main à la poche, hein, s'il vous plaît, on ne va pas y aller par quatre chemins. Soutenir.rc.fr pour donner un coup de main, soutenir.rc.fr en fonction de vos besoins. Et bien sûr, un grand merci d'avance.
Voilà, et on remercie aussi Franck pour sa fidélité, parce que 1987, c'est l'âge auquel il devait partir à la retraite, normalement.
Absolument, oui. Quand vous êtes né, j'étais là depuis 10 ans, je crois, un truc comme
mais
ça.
C'est à peu près ça. Qui reste. Nous aussi, on reste, chers auditeurs. On va notamment écouter François Blumenroder qui va nous parler des agressions dans les transports, de l'insécurité du quotidien.
Ligne droite. Debout les Français.
Et pour ce Debout les Français, ce premier entretien, nous avons le plaisir de recevoir François Blumenroder ici sur Ligne droite. Bonjour François.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous.
Alors aujourd'hui nous allons parler des agressions dans les transports, de cette nouvelle insécurité du quotidien. Donc nous allons partir évidemment de l'actualité, mais finir par élargir peut-être à des réflexions plus générales. Je rappelle que vous êtes responsable de la communication de l'Institut pour la Justice, François Blumenroder. Maëlys, je vous laisse lancer.
Alors François, vous avez certainement vu cette agression qui est survenue dimanche soir à l'intérieur d'un tramway dans le nord de Paris, où un individu a été agressé au couteau. Aujourd'hui, il est dans un état assez critique et évidemment le suspect est en fuite. Donc on voit bien que on voit bien que c'est quelque chose qui est devenu assez quotidien, notamment à Paris ou dans les grandes métropoles. Qu'est-ce que ça vous inspire?
Oui, alors bon, moi, la première chose que ça m'inspire, déjà, c'est quand on voit cette vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, où effectivement, on voit ce tramway où il y a eu cette agression couvert de sang. Donc, on peut imaginer, effectivement, l'action qui s'est produite à l'intérieur. Moi, ce que je note, c'est que c'était à l'arrêt Porte de la Chapelle. Alors, vous le savez, Porte de la Chapelle, c'est assez connu pour un problème, disons, d'individus sous crack et toutes sortes de drogues. Voilà, bon, c'est pas un endroit où on aimerait vivre à titre personnel. Alors moi, ce que ça m'inspire, en fait, cette question des agressions dans les transports en commun, c'est qu'il y a deux sujets. Il y a le premier sujet sont que ces transports sont des cibles, clairement, pour les délinquants. Il y a des vols, des agressions sexuelles, on en voit beaucoup dans l'actualité, mais on voit aussi de plus en plus ce genre de faits où, clairement, il y a des agressions gratuites. Pour un regard de travers, pour un... pour une place qui n'est pas cédée ou un mot de trop. Ça dit quand même quelque chose de notre société et ça m'inquiète quand même assez violemment. Alors bon, si on revient sur la question des vols et des agressions sexuelles, on a des chiffres globalement. Moi, il y en a un que je trouve assez parlant, c'est le nombre de victimes dans les transports en commun en France en 2024 qui est de 107 080. Et je trouve que c'est vraiment absolument énorme.
D'autant que les chiffres de 2024 étaient les plus bas depuis 2016. C'est-à-dire que même pendant le Covid, 2024 était le pic une amélioration de l'insécurité.
Exactement.
Alors évidemment, faut pas se leurrer, chers auditeurs, c'est pas comme si Bruno Retailleau avait fait un excellent travail, ça a remonté de 17% en 2025.
Voilà.
Mais en tout cas, 107 000 victimes en 2024.
Exactement.
Uniquement dans les transports.
Exactement, et on peut aussi dire qu'il y a beaucoup de victimes qui ne portent pas plainte. Ça, c'est uniquement les faits qui sont recensés par le ministère de l'Intérieur, donc qui sont enregistrés auprès d'un commissariat de police ou de gendarmerie. Donc, c'est assez fou. Clairement, aujourd'hui, les transports en commun ne sont pas un endroit sécurisé pour les utilisateurs et ça, c'est assez inquiétant.
Je ne sais pas si les auditeurs de Radio Courtoisie l'ont forcément entendu parler, mais il y avait quand même cette histoire qui avait remué toutes les États-Unis, c'était en août 2025, l'histoire de, j'en retrouvais son nom à l'instant, Irina Zarutska. Jeune femme ukrainienne de 23 ans, pour le coup poignardée. Alors la vidéo est absolument atroce à regarder, hein. Il faudrait vraiment avoir le cœur bien accroché parce que ça c'est difficile, mais qui est tuée je crois par un multi-récidiviste il me semble.
Oui.
En l'occurrence, vidéo qui secoue absolument tout le pays.
Absolument. Et mais je vais vous dire, il n'y a pas forcément besoin d'aller aux États-Unis pour retrouver des faits qui sont très proches. Moi, je pense à une personne en particulier qui est Philippe Ponguillot. Je ne sais pas si vos auditeurs s'en rappellent. C'est une affaire de 2020. C'est un chauffeur de bus qui à Bayonne, qui fait une remarque à des jeunes qui n'ont pas de ticket, qui montent dans le bus, et il va se faire planter, tabasser à 4 contre 1, laissé pour mort, et Philippe Monguillot est décédé 5 jours plus tard. Moi, avec l'Institut pour la Justice, on a rencontré sa femme, qui mène un combat pour la mémoire de son mari, et elle, vraiment, c'est assez formidable ce qu'elle fait. Et donc, il n'y a pas besoin. Et cette affaire, elle avait vraiment secoué la France. Dans quel pays on tabasse des chauffeurs de bus qui sont des gens qui se lèvent tôt le matin? Donc, c'est assez insupportable. Et moi, ça m'inquiète. Et d'ailleurs, il y a un chiffre, les femmes qui ont peur dans les. C'est une femme sur deux qui a peur dans les transports en commun. Et je crois que c'est assez représentatif. Alors, nous, on est des mecs, peut-être que c'est
non,
pas quelque chose qu'on ressent.
Moins conscience,
mais
Maïlis,
tu nous diras. Mais c'est vrai que moi, j'ai peut-être. J'ai peur aujourd'hui pour mes amis, pour les femmes de ma famille qui prennent les transports en commun.
Effectivement, passé 20 heures, j'ai un peu de mal à prendre les transports en commun. Mais on peut aussi s'interroger sur justement la responsabilité de l'État à travers ces drames qui manifestement sont assez quotidiens. Que fait l'État pour ces femmes, pour ces victimes? Puisqu'on voit bien que manifestement, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Et
Je voyais qu'il y a quelques mois, sachez que la région Bourgogne-Franche-Comté a lancé une campagne de sensibilisation contre l'insécurité des transports.
C'est ça, c'est la réponse de l'État face à ça, c'est toujours la même chose. C'est on met des petites affiches dans les transports. Mais c'est insupportable. Enfin, pour les victimes, c'est inaudible. Et on sait aujourd'hui quelles sont les solutions. Il faut mettre des caméras dans les transports en commun. Il faut aussi aller chercher. Vous savez, on dit qu'un criminel qui prévoit de commettre un crime, la première étape, c'est qu'il paye pas son billet. Bon, bah voilà, allons chercher déjà, soyons un petit peu plus restrictifs sur les fraudeurs. Et alors, sur la question de la responsabilité de l'État, moi, je vois un autre sujet. On parlait de Porte de la Chapelle. Une des caractéristiques de Porte de la Chapelle aussi, c'est que c'est un lieu où il y a énormément d'immigration. Et clairement, le poids de l'immigration dans la délinquance, dans les transports en commun, il est prouvé. J'ai d'ailleurs des chiffres. Pareil, ministère de l'Intérieur, c'est 93% dans les transports en Île-de-France, 93% des vols, 63% des agressions sexuelles commis par des étrangers. Donc des personnes qui n'ont pas la
93% des vols.
Exactement. Et ça, c'est des chiffres ministère de l'Intérieur. Ouais. Donc ça vous donne un peu une idée de pistes, peut-être, pour régler cette question de l'insécurité dans les transports.
Il y a aussi un ouvrage qui était sorti il y a 3 ans, je crois, par un journaliste du Figaro, Judicaël Hirel.
Exactement. Oui.
Je ne sais pas si vous voulez raconter, même parler un petit peu de cette histoire.
Alors, je ne me rappelle plus très bien de l'affaire, mais je sais qu'on a, avec l'Institut pour la Justice, on a rencontré Judicaël Hirel, effectivement. Il a un fort témoignage.
Oui, donc en fait, finalement, c'est quelqu'un qui tout simplement prenait le métro et puis je sais plus vers quelle station, mais défend une femme qui se fait embêter par un espèce de sombre russe, quelque chose comme ça.
Sombre russe.
Ouais, exactement. Et en fait, celui-ci lui casse complètement la figure au premier degré, quelque part. Et alors, un des problèmes auxquels a fait face Judicaël Hirel, c'est cette question de la vidéosurveillance, où effectivement, toutes les images sont détruites au bout de 48 heures ou 72 heures, il me semble.
Automatiquement.
Ouais. Et exactement. Et en fait, finalement, on a un réseau. Aujourd'hui, on a mis beaucoup moins d'agents de sécurité stricte, dans les transports, beaucoup moins de policiers, en fait, parce qu'un agent Navigo va pas être habilité, évidemment, à faire régner l'ordre. Beaucoup moins de policiers dans les transports, beaucoup plus de vidéosurveillance, mais cette vidéosurveillance, elle est très difficilement exploitable.
Absolument. Et moi, je vais vous dire, c'est absolument insupportable, parce que de l'autre côté, il y a une espèce de sévérité pour les gens honnêtes qui prennent les transports en commun, mais moi j'ai tombé sur des cas où on pouvait se prendre une amende pour une histoire de photo effacée sur son pass de transport.
Oui.
Voilà, et donc il y a une espèce de double mesure, où d'un côté on est extrêmement strict avec le français honnête qui prend les transports tous les matins pour aller bosser, et de l'autre avec des mecs qui n'ont rien à faire, qui fraudent, qui agressent, et ça on les laisse. On en voit tout le temps des marginaux dans les transports, et on se demande mais qui les vire, qui s'occupe de ça, alors qu'on les voit sur les
cas. Et justement, ces marginaux, j'ai envie de dire, il y en a presque un par bus, le fou du bus.
Voilà. Ouais, clairement.
Expression dans tout son sens.
Exactement, mais en l'occurrence, personne, enfin c'est très rare. le fait que quelqu'un aille, enfin pardon, on touche, c'est-à-dire on n'est pas dans la science là dans notre discussion, mais en l'occurrence c'est vrai quand même, que quelqu'un aille dire au fou du bus de se taire ou de descendre, ça devient extrêmement difficile parce que justement on a peur d'une forme d'escalade de Trapinon.
Absolument, c'est extrêmement dangereux. Et d'ailleurs, il y a eu plein de cas de gens effectivement qui ont dit, enfin, on le voit tous, hein, je pense que les auditeurs qui nous écoutent le voient tous, ce mec qui écoute des vidéos à la con sur son téléphone beaucoup trop fort et qui embête tout le bus. On a tous envie d'aller le voir et de lui dire, excuse-moi, est-ce que vous pouvez mettre un peu le son un peu moins fort, mais avec le risque derrière que le type sorte un couteau et qu'il nous plante. Et moi, ce que je trouve fou dans cette société, c'est que on prend le bus pour aller bosser, on prend le bus pour rentrer de soirée, pour moi je suis un grand fan de, enfin
de soirée, plus... oui alors
non
j'ai toujours un petit peu François,
oui Bruno, alors beaucoup de soirées notamment avec des amis de la mairie de Paris, non pas du tout, ce que je voulais dire c'est que j'aime beaucoup le bus, j'aime pas trop le métro, et dans le bus on voit des mères de famille qui emmènent leurs enfants à l'école, qui ont des poussettes, quand on fait ça, quand on prend le bus pour aller bosser, on n'a pas envie d'aller se faire planter. Clairement.
Ah bah non.
On n'a pas envie.
On n'en a jamais envie d'ailleurs.
On n'en a jamais envie. Non mais c'est sûr. Et vous voyez, il y a une démarche quand même. Quand on va dans les transports en commun, c'est pour faire une activité qui n'est pas. Je suis sûr que quand on travaille à Radio Courtoisie, on est très content de venir travailler le matin. Mais il y a plein de gens qui sont dans les transports en commun qui n'ont pas envie d'être là. Et en plus, si maintenant ils doivent se préoccuper d'avoir la charge mentale de savoir s'ils vont se faire planter ou pas, bah moi je trouve que c'est pas une société dans laquelle j'ai envie
planter,
de vivre.
Se faire voler,
absolument, se faire insulter.
Ça vous est déjà arrivé, Maïlys Clozel, de vous faire embêter dans les transports comme ça?
Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois. Après, disons que j'ai un peu de répondant, donc en général,
les
types se calment un petit peu. Mais bon, c'est vrai que ça m'est arrivé plusieurs fois. Si on peut plus ou moins revenir sur les mesures que vous avez. Que vous avez énoncé tout à l'heure, vous avez dit qu'il faut plus de caméras. Alors effectivement, en attendant, c'est vrai que c'est mieux, mais il y a un intellectuel qu'on aime beaucoup à la maison Radio Courtoisie qui dit « on ne veut pas vivre en enfer, on veut le retour au paradis ». Donc est-ce que finalement, c'est pas simplement l'État qui met des vidéosurveillances dans les métros ou qui avait proposé la reconnaissance faciale. Donc finalement, on arriverait dans une société complètement fliquée, des wagons réservés aux femmes. Est-ce que finalement, ce n'est pas des moyens de substitution pour contourner le problème et ne pas le résoudre à la source?
Ah mais je suis tout à fait d'accord. Et même, je vais aller plus loin. Pour moi, je ne veux pas d'une société où on a un policier à chaque coin de rue. Moi, les policiers devraient être à la frontière à empêcher les migrants de rentrer. Bon, voilà. Mais effectivement, dans une société parfaite, on n'aurait pas besoin de caméras, on n'a pas besoin de policiers partout. Et il faudrait qu'on puisse nous-mêmes être capables d'être en sécurité sans avoir des gens pour nous fliquer. Donc, est-ce qu'il y a des mesures? Moi, j'en suis pas si sûr. À part, effectivement, mettre un terme à l'immigration illégale, qui est criminogène, avoir une justice qui est beaucoup plus ferme sur tous les crimes et délits pour qu'un délinquant, même un primo-délinquant, il ait une sanction immédiate. Ça pourrait permettre d'éviter certains problèmes, mais je suis pas sûr qu'il y ait des mesures miracles, malheureusement.
Ce qui est fascinant, c'est que de toute façon, c'est toujours la même recette, et qu'il suffit de l'appliquer. Je veux simplement un commentaire d'une auditrice, et je pense qu'on terminera là-dessus. Voilà, il m'est arrivé de hurler sur le débile du train, le débile du train, après qu'il avait terrorisé tout le wagon. Ils ont confiance, car nous nous taisons de trouille, et puis le fou du train est descendu. Et bien bravo à vous, chère auditrice, c'est courageux.
Voilà.
Ah, voilà. Et nous arrivons effectivement à la fin de cette émission, enfin pas à la fin de cet entretien en tout cas. Merci beaucoup François Blumenroder d'avoir été avec nous ce matin. Et puis on vous retrouve bien sûr bientôt pour parler de tous ces sujets d'insécurité et de justice. Merci.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite avec Alexandre de Galza.
Un seul mot, chers auditeurs, merci d'avoir suivi cette matinale, merci d'avoir été avec nous ce matin. Nous, c'est toujours un plaisir d'être là pour animer, pour vous faire découvrir un petit peu l'actualité, pour l'analyser en votre compagnie. Simplement, il faut qu'on puisse le faire demain et jusqu'à la fin de la saison, en fait.
Et oui, il n'y a pas que le carburant qui augmente et qui compte cher, il y a tout, la diffusion de la radio, les prestataires,
les salaires
l'électricité,
de Franck,
les salaires d'Alexandre et ainsi de suite. Alors, pour aider Radio Courtoisie, là, on plaisante plus. Oui. Pour Radio Courtoisie, qui a besoin de ses auditeurs puissent vivre, puisqu'elle ne vit que grâce à eux, il faut que chaque auditeur prenne conscience qu'il doit mettre un petit peu la main à la poche en fonction de ses besoins. Et pour ce faire, il suffit d'aller sur soutenir.rc.fr, soutenir.rc.fr, même 1 euro, 5 euros. Oui. On n'est pas en train de faire la manche, mais vu le nombre d'auditeurs qu'il y a, 1 euro par auditeur, ça pourrait nous sauver pour un bon moment. Donc,
Voilà. Surtout, vous n'êtes que 2% à donner. Donc, merci à ceux qui le font déjà et on invite tous ceux qui ne le font pas encore à la mesure de leurs moyens. Le moindre geste est déjà un grand soutien, au moins psychologique et j'allais dire moral pour nous. Quel sera le programme du jour, Franck ?
Dans quelques instants, les mardis de la mémoire d'Anne Collin pour le Château Neuf de Saint-Germain-en-Laye, Histoire et Résurrection. À midi, le libre journal de la Nouvelle Droite de Xavier Aymant. Peut-on encore être français ? À 16h30, ensuite, le RCMAC de Jean-Étienne Poza. 17h, populaire, vous avez dit populaire, de Renaud Dourges. 17h30, Restons courtois, comme tous les mardis en compagnie de Richard de Sèze. À 19h30, le libre journal du droit et des libertés d'Olivier Tournafon. 21h30, le libre journal du monde de la foi de Nicole Pilorge. Enfin, à 23h, rendez-vous avec Virginie pour la soirée musicale. Aujourd'hui, les sonates de Brahms.
Superbe programme et moi, de mon côté, je laisserai demain Richard de Sèze animer cette matinale et je serai de retour avec vous pour jeudi. J'ai hâte. À très bientôt.
Bonne journée à tous et à demain 7h.